Ce matin, c'est vraiment un privilège, un plaisir de pouvoir recevoir quelqu'un que nous connaissons très bien, donc François Turcotte. C'est un ami proche de notre pasteur de la vision de l'enseignement, Yannick Etier. Donc, bienvenue ici ce matin, François. François a été pasteur pendant plusieurs années à Fermont, à Saint-Hyacinthe, et présentement, il est ancien pasteur, directeur des opérations à l'église également là, du Plateau, donc en implantation, à la même église que Christian Fappier. Donc, on est très heureux de te recevoir. Et on veut mentionner que, dans le fond, l'occupation complète de François présentement, c'est au sein de notre séminaire baptiste de Sembec. Il est le directeur des études et le directeur général adjoint. Donc, certainement, si vous avez des questions concernant le séminaire, ça va faire plaisir à François de pouvoir y répondre. Donc, bienvenue ce matin. Et puis, merci, avant de commencer, on va avoir l'introduction de la lecture biblique par Joël.
Le biblique de ce matin est tiré du livre de Actes, au chapitre 8, versets 26 à 38, édition Louis II. Alors, Actes, chapitre 8, les versets 26 à 38 de l'édition Louis II. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa prospérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque.
Bonjour à tous. Alors, si Christian et moi travaillons ensemble ici à Longueuil ce matin, on pourrait dire que c'est l'invasion du plateau Mont-Royal à Longueuil, ou l'invasion des bobos, comme certains nous appellent. Alors, c'est un plaisir de toujours être avec vous à Longueuil. Plusieurs ici me connaissent, mais sinon, je salue toute l'Assemblée de l'Espoir et tous ses invités ce matin. Dans les années 60, pour ceux ici qui peuvent s'en rappeler, pour d'autres qui se sont fait raconter, une époque particulière au Québec. Après presque 100 ans d'un système stable, on voit naître des changements soudains, des changements qui sont rapides, qui se succèdent les uns après les autres. La société québécoise est bouleversée positivement. Et on appelle cette époque, suite même à un journaliste anglais, la révolution tranquille. Sur le plan politique, dans le monde de l'éducation et dans la culture et dans la vision du monde, tout change. rapidement une révolution, mais elle n'est pas faite par la guerre. Elle n'est pas faite par les armes. Elle est pacifique. Et elle change tout. Les Québécois vont, dans un sens, on pourrait dire presque naître. Et dans cette période, c'est là que leur propre musique va naître. La révolution tranquille. Et le Québec a eu sa révolution tranquille dans les années 60 et on est encore marqué par ce virement, ce changement. Bien, il y a eu une autre révolution tranquille bien avant. Ça s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans. Il y a eu aussi un changement majeur qui a changé l'histoire de l'humanité. Un changement drastique où tranquillement s'est installé au cours des décennies qui ont suivi le passage de Jésus, une révolution aussi pacifique par l'annonce d'un message, d'un contenu qui est venu changer et qui a un impact sur la culture, sur la politique et sur toute la vie des citoyens de l'Empire. Par un message qui était fracassant, qui change la vie des gens. Comme on va le voir dans le texte ce matin, qui change la vie de cet homme qui était venu en visite à Jérusalem. J'aimerais qu'on puisse comprendre aujourd'hui, ce matin, pourquoi ce message est si crucial, pourquoi revenir à la bonne nouvelle de Jésus-Christ alors qu'il a été bon pour les Québécois dans un sens de rejeter le catholicisme romain lors de cette révolution tranquille, de rejeter cette autorité qui provenait d'une institution légendaire. Pourquoi aujourd'hui reparler du Christ? J'aimerais qu'on puisse comprendre pour nous aujourd'hui qui se situe 2000 ans plus tard, mais d'où provient la source de ce message aujourd'hui en 2014 révolutionnaire et que contient-il ce message? C'est mon plan pour nous ce matin. Plaçons-nous un peu dans le contexte tout d'abord. Dans le passage qui est lu, Philippe, un leader de l'Église de Jérusalem, un homme aussi qui annonce la bonne nouvelle, est en déplacement, en train d'annoncer en dehors de Jérusalem cette bonne nouvelle. Et l'auteur des Actes, Luc, en profite pour nous montrer que cette semence de ce message commence à se répandre partout. Il y a eu une persécution à Jérusalem de l'Église chrétienne qui s'est répandue. Et Luc nous montre comment le message se rend à Antioche et dans la Samarie, un peu partout. Et il veut nous montrer aussi par des petits segments comme celui de ce matin que comment ça a pu se rendre même en dehors du pays, en dehors d'Israël et de la Palestine. Ici, on a un Éthiopien qui est venu adorer à Jérusalem, un gars qui vient de l'Éthiopie. À cette époque, l'Éthiopie est juste un peu plus au nord que celle d'aujourd'hui. C'est un peu probablement une partie de ce qu'on appelle le Soudan. C'est loin de Jérusalem à l'époque, mais il va entreprendre le voyage. On nous dit que ce gars-là, il travaille tout près de la reine de l'Éthiopie, d'une dynastie appelée la Candace, une succession de reines. Et lui, probablement qu'il a été même volontairement castré pour accéder à cette fonction-là, qui, parce qu'ils étaient ainsi, castré, il permettait d'assurer une succession et de protéger afin de ne pas faire une révolution et de créer sa propre dynastie. Alors cet homme, un peu ministre des Finances, est en quête, il se cherche, il cherche quelque chose. Et il croit qu'il se trouve quelque chose à Jérusalem, il va faire le voyage, il va s'y rendre, il va s'y procurer le livre d'Ésaïe, les rouleaux du livre d'Ésaïe. Et il est donc en démarche, tellement soucieux dans sa quête de trouver la vérité, de trouver le sens à sa vie. Il va même commencer à lire avant même d'être revenu chez lui. C'est à ce moment-là que Dieu intervient et demande à Philippe d'aller le rencontrer sur son chemin, sur sa route, et qu'ils vont ensemble avoir un dialogue. C'est la bonne nouvelle que ce messager, Philippe, ira raconter à cet Éthiopien. D'où vient ce message? C'est intéressant parce que cet Éthiopien est en train de lire un livre qui est en fait le livre d'un prophète qui a parlé 8 siècles avant la lecture qui est faite au moment de ce passage ici de l'Éthiopien et qui parle d'un passage et que le lecteur, l'Éthiopien, n'arrive pas à saisir. Et Philippe va arriver près de lui alors qu'il est en train de lire. Et comment qu'il sait qu'il est en train de lire Ésaïe? À l'époque, on lisait à haute voix. C'était coutume de lire à haute voix. Donc, c'est possible comme Philippe arrive et s'approche de lui, de lui poser la question « Comprends-tu ce que tu lis? » Le message que cet Éthiopien a récupéré des prophètes est intéressant parce que cet Éthiopien-là ne se tourne pas vers lui pour trouver solution. Il se tourne vers une source externe que nous on appelle aujourd'hui la parole de Dieu. Mais il y a un message fort important ici puisque se tourner vers une source externe est peu commun dans notre culture. Beaucoup de Québécois d'aujourd'hui se font une gloire même ou se favorisent de se tourner vers l'intérieur, comme si la solution était à l'intérieur de l'homme. La solution, on me dit souvent, provient de l'homme et doit s'accomplir par l'homme. Au pire, on va dire un slogan, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Pour eux, l'homme a le potentiel de bien agir en société. Les circonstances externes, comme l'éducation et le système politique adéquat, viennent aider au développement progressif de notre société. Elle évolue ainsi et se développe pour le mieux. Et si ça va mal, bien c'est la faute du gouvernement que ça va mal. C'est la faute de ceux qui nous dirigent. C'est pourquoi on nous propose quotidiennement, régulièrement, toutes sortes de solutions qui pointent vers l'intérieur, vers ce qui aide l'homme à devenir meilleur, plus pacifique, plus altruiste, plus écologique, plus épanoui, plus accompli ou plus méditatif, sans oublier qu'il soit plus instruit, qu'il comprenne mieux ce qu'il est par le biais de la science. C'est pourquoi on trouve des sections entières de lecture aujourd'hui qui portent des titres comme « Le pouvoir de l'intention » ou « Tout ce qui tourne vers l'intérieur ». Pourtant, j'étais fasciné dernièrement, au mois de juillet dernier, d'entendre à la radio de Radio-Canada un animateur, Joël Lebigo, interroger Serge Bouchard. Serge Bouchard, pour vous situer, c'est le frère de Lucien Bouchard, qui a été premier ministre du Québec. Serge Bouchard est ethnologue. Il a étudié l'homme et sa société. C'est un homme âgé, un homme excessivement respecté, un homme qui est souvent cité et interpellé. Et dans cette entrevue très particulière, l'animateur lui pose la question, « Finalement, toi qui es ethnologue, est-ce que l'humanité progresse? » Et Serge Bouchard répond, « Sur le plan technique, oui. Mais dans son sens fondamental comme être humain, non. » Et là, l'animateur est un peu comme déstabilisé. Monsieur Bouchard dit, « Si l'humanité passait au tribunal, ce serait terrible. » Le juge dirait, tu avais tout, voilà ce que tu as fait. Là, j'écoute la radio, je mets le volume. Il dit, en Amérique, on est passé de ce qui était ethnocentrique à égocentrique. Et ensuite, il dit, aucun système n'a fonctionné, ni le capitalisme, ni le républicain, ni les systèmes anciens, ni le marxisme. Il dit, la mort existe encore, la souffrance aussi. L'humanité n'a rien prouvé encore. Il dit, je suis inquiet. Alors, M. Le Bigot lui dit, où allons-nous? Il dit, je suis inquiet. Il dit, vous ne me répondez pas. Et il dit, c'est ma liberté. Un saut ici. Un saut dans le vide, que dirait Francis Schaeffer. Et d'une manière contradictoire, parce que là, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas de solution. Et l'animateur était un peu comme dans une situation de malaise, j'avais l'impression. Mais il lui dit, c'est quoi ton espoir? Et Serge Bouchard répond, l'homme. Un jour, peut-être, dit-il, l'humanité sera capable de s'assembler et de mettre une énergie en commun pour le bien commun. Vous voyez la tension? Ils viennent de dire que depuis l'histoire de l'humanité, il n'a vu aucun progrès et sa solution reposait encore sur l'homme. Ça m'apparaît comme une flagrante contradiction ici. C'est comme s'il y avait une résistance, et là c'est moi qui interviens ici, c'est comme s'il y avait une résistance à revenir à une solution qui était au-delà de l'homme, plus puissante que l'homme, qui vient d'une source externe à l'homme, parce que c'est comme s'il se disait en lui-même, je ne peux pas revenir à cela. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je revienne à la religion que j'ai déjà rejetée. Mais voilà l'inconnu chez plusieurs Québécois. Il est possible de revenir à Jésus-Christ sans la religion. On est possible de trouver une réponse à ce que nous sommes et là où on s'en va sans revenir en arrière en tant que Québécois. Prenons exemple de cet Éthiopien, cet Africain de l'époque qui se tourne vers la parole de Dieu. Les enseignements des prophètes avant Jésus-Christ et de Jésus lui-même, de Christ, ont été confinés dans cette révélation complète de Dieu, où Dieu se dévoile lui-même et son plan pour les hommes. Et l'Esprit de Dieu nous convainc en le lisant de sa nature divine. C'est lui qui œuvre en nous lorsque nous la lisons. Et Dieu utilise, comme on le voit dans le texte aussi, des médiateurs, des gens autour de nous pour nous aider dans cette lecture. Cette révélation externe est autoritaire sur nos vies, n'est-ce pas ce qui est un peu sensible pour nos amis que nous côtoyons quotidiennement? Mais cette parole se révèle comme la parole de Dieu, avec les mots officiels de Dieu. Elle juge l'âme, les sentiments, nos décisions. Elle tranche comme une épée. Elle atteint jusqu'au cœur. Elle est vivante. Elle donne la vie. Elle illumine. Oui, mais certains vont dire, si c'est ce qu'elle déclare d'elle-même, c'est un peu comme un raisonnement circulaire. Oui et non. Si elle avait besoin d'une source externe pour être validée, c'est cette source externe qui serait l'autorité. Toute vérité fondamentale, quelle qu'elle soit, se définit d'elle-même. Mais on peut se tourner aussi ce matin vers le témoignage des vies transformées de ceux qui ont lu la parole de Dieu et qui ont écouter, porter oreille à ce message révolutionnaire qui vient du Christ. Des vies qui ont été changées. Je pense à ce soldat qui était croyant et qui lisait régulièrement les Écritures là où il était sur sa base militaire Et puis, évidemment, il recevait de la part de tout son régiment énormément de moqueries. Et il était méprisé pour ça. Mais il persévérait dans cette lecture qui était pour lui nourriture pour son âme. Et sa vie était changée. Et un des soldats plus peut-être agressifs que les autres, chaque soir avant de s'endormir, lui garrochait ses bottines toutes sales de boue sur son lit pour le nuire. Sauf que chaque matin, quand il se réveillait, ses bottes étaient au pied de son lit nettoyées. Et il n'était pas capable de répliquer à ça. Et ce geste quotidien vécu par tous les soldats autour de ces deux gars-là a fini par, à un moment donné, créer quelque chose. Et les gens ont commencé à le questionner. Pour certains, à se tourner vers cette source qui semble donner une vie transformée, une vie différente. Cette source externe, cette parole de Dieu qui provient de Dieu, contient un message qui est complètement révolutionnaire. Quel est le contenu de ce message? Posons-nous la question ce matin. De qui parle-t-il? C'est un peu la question que l'Éthiopien demande à Philippe. De qui ça parle? Et on lit au verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez tourner avec moi ou lire à l'écran. On va se tourner vers le passage que l'Éthiopien est en train de lire du prophète Ésaïe. Et on va le lire juste quelques versets avant la citation donnée dans Acte 8. Donc, Ésaïe 53, ça se trouve à cet endroit-là dans nos Bibles aujourd'hui, au chapitre 53 d'Ésaïe, verset 3. Le prophète dit qu'un jour viendra un serviteur, et on lit, ce serviteur sera méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Quel passage, quel texte! On est après Jésus-Christ, et pour Philippe, qui accompagne l'Éthiopien, ils sont aussi après le venu de Jésus-Christ. Et il est évident que ce passage parle de ce que Christ est venu faire sur terre. Et d'ailleurs, nombreux passages de l'Ancien Testament sont écrits dans cet objectif de nous faire comprendre longtemps d'avance ce que Jésus-Christ serait venu faire en accomplissant cette mort et cette résurrection qu'il est venu accomplir. Le livre d'Ésaïe en regorge, il est plein, le chapitre 53 en est un bel exemple. D'une manière souffrante et méprisante, honteuse et incompris de plusieurs. Jésus devait mourir sur la croix. Pourquoi? Eh bien, ce texte nous dit que c'était un châtiment qu'il portait. Non pas à cause de lui, et c'est ce que le texte répète et répète, mais à cause de la faute de d'autres personnes, d'un autre, à cause des tiennes et des miennes. Philippe est en train de dire à l'Éthiopien ici, tes fautes, tes transgressions mènent à un châtiment certain. Un peu comme M. Bouchard qui disait, si on passait devant un tribunal, mais ce châtiment certain, monsieur l'Éthiopien, a été porté à ta place par un autre, une substitution qui te donne en échange de ce châtiment certain la vie en abondance, la vie avec une paix avec Dieu, rétablie comme une réconciliation entre vous deux, avec une relation avec le Dieu vivant, accessible directement sans médiateur. C'était un message révolutionnaire. Pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais quelle faute? Quelle faute de ma part? J'aime quand le texte dit, chacun suivait sa propre voie. Voilà la faute principale. Vivre pour soi-même, à sa façon, comme si j'étais la réponse intérieure à l'homme, en rébellion à cette révélation externe qui dévoile le Dieu d'amour et son plan. Une rébellion manifestée dès les premiers humains est visible en chacun de nous. Et le texte nous dit que Dieu tend la main ouverte et offre à cet Éthiopien ainsi qu'à chacun de nous l'opportunité d'être pardonné de toutes ses fautes. Et je dis bien de toutes nos fautes. Personne ici ce matin peut dire « sauf moi, si tu me connaissais ». J'étais hier soir dans une soirée, la dame âgée me dit « c'est la première fois qu'on se voit ». Elle dit « tant mieux ». J'ai dit « pourquoi ?» Mais elle dit « tu sais rien de moi avant ». Ça m'a frappé. Elle avait 82 ans. Toutes nos fautes. Toutes. Le châtiment unique couvre toutes nos fautes. Et Dieu tend la main. Le message de l'Évangile n'est pas un fardeau religieux de règles à suivre. Une religion opérée par des dirigeants avec une autorité humaine. Non, dans le vrai christianisme, l'autorité est celui même, celui-là même qui a donné sa vie en subissant le châtiment à notre place pour que nous ayons le cœur léger et la paix réconciliée avec le Créateur. Jamais on n'a vu l'autorité comme ça. Se donner ainsi et de porter à la place d'un autre. La plupart des figures d'autorité qu'on voit font l'inverse. Ils font porter leurs fautes sur les autres. C'est ça qui n'a pas été enseigné et qui a amené, dans un certain sens, à un saint rejet au Québec il y a tant d'années, sans pourtant s'agripper au Christ lui-même. Ce message est si incroyable. Dieu lui-même reçoit notre place, notre châtiment. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, il s'est silencieusement et avec joie soumis au plan divin du Père pour sa vie, afin que la grâce soit disponible Et c'est ça qui est miraculeux. Ce fut ce message qui a révolutionné la Palestine et l'Empire romain. Et c'est le message qui peut être révolutionnaire pour toi aujourd'hui. C'est t'accepte que ça ne vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est pourquoi, voulant raconter cet évangile environ 100 ans après, environ quelques décennies, c'est-à-dire après le passage de Jésus sur terre, Matthieu, qui écrit un évangile, dit dans son introduction et dans une parole dite à Joseph, « Marie, ta femme, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans l'introduction, il nous dit clairement, tout ce qui suit, c'est pour vous faire saisir cette phrase-là. C'est ce qui va transformer l'Éthiopien. Par son désir de se faire baptiser, au verset 36 qu'on lit, il confirme que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que Philippe lui a annoncé comme bonne nouvelle en partant d'Ésaïe qui parlait de Jésus. C'est lui le Fils de Dieu. Et cet Éthiopien a confirmé par son baptême aussi qu'il ne voulait plus marcher selon sa propre voie, mais sur la voie de son nouveau maître, Jésus-Christ. Et le texte termine en disant qu'il poursuivit sa route tout joyeux. Ça va bien, hein? Merveilleux. Tout joyeux. Et la mélodie s'installe. Merci à l'équipe technique. C'est vraiment génial ici à l'église. C'est vraiment là, monté. C'est incroyable. Il se savait pardonné. Il se savait léger. Il se savait maintenant en communion avec le Dieu de l'univers. Il avait un nouveau départ, une nouvelle vie. Et je suis certain qu'arrivé de retour en Éthiopie, il a partagé, il a semé ce message révolutionnaire. Il poursuivit sa route tout joyeux. J'aimerais vous dire à vous tous ici, croyants dans ce message révolutionnaire, une question pour terminer. Quelle est ta source de joie? Parfois, on pourrait marcher dans la vie et chrétienne et d'oublier la source de notre joie et de se détourner vers toutes sortes de propositions de joie qui me sont offertes, gadgets et compagnie. Où est ta source de joie ce matin? Je crois qu'elle doit être la même que l'Éthiopien en ce jour-là. De revenir à te rappeler qui tu étais, où tu t'en allais et les conséquences de suivre ton propre chemin et te rappeler la grâce qui t'a été offerte gracieusement, qui t'a donné une nouvelle identité complètement transformée. Et en devenir de ce qui s'en vient. Et après tout, tout le reste, c'est des choses créées qui viendront jamais par tout leur offre et leur message qui va communiquer quoi que ce soit, ne pourront jamais atteindre la cheville de ce que Dieu a opéré en nous. Réannonce-toi ce message chaque matin, avant de sortir de ton lit le matin. Au lieu de sortir et puis commencer avec quelques morceaux de murmure, que ce soit. Ouvre les yeux et rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. le reste. C'est la dentelle. Sinon, l'orgueil religieux te regagne et il te ramène à porter de vieux fardeaux. Et il te porte à aller vers d'autres sources de joie. Confesse ça au Seigneur Jésus-Christ. Reviens à ta source de joie. Lis sur la croix. Frères et sœurs, on lit sur toutes sortes de choses. On peut lire sur le leadership, sur l'Église, sur toutes sortes de choses. Mais à quand ta dernière lecture sur la croix de Jésus-Christ? Pour en être imbibé, pour en être émerveillé, pour te souvenir et de partir dans ta course avec joie. J'espère que tu vas quitter cette salle aujourd'hui avec joie. Et si ce n'est pas le cas, parle à quelqu'un. Je t'en prie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, combien c'est merveilleux qu'un jour, tu as mis un Philippe sur notre route qui nous a parlé de la parole de Dieu et de cette source extraordinaire, des mots qui sortent de ta bouche et qui transpercent, qui atteignent notre âme, notre cœur lorsqu'on n'est disponible et que tu puisses, par cela ainsi, nous avoir fait goûter à la vraie joie. Seigneur, rappelle-nous chaque jour. Et Seigneur, nous te confessons d'avoir tourné nos cœurs et nos âmes vers d'autres sources de joie. Seigneur Jésus, sois honoré par nos vies, ce matin, en ton beau nom. Amen.